Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle émission de Touchdown Actu, nouvelle émission axée sur la draft et notamment sur un petit ranking ou en tout cas une présentation détaillée des différentes positions que vous serez susceptible de retrouver donc à l'occasion du prochain repêchage prévu le 27 avril prochain du côté de Kansas City à partir du 27 avril prochain, parce qu'on rappelle que ça se passe notamment sur 3 jours, avec le premier jour le jeudi, les deuxième et troisième le vendredi et du quatrième au septième le samedi soir. Donc on s'intéresse aujourd'hui à l'attaque et on va parler main violente, T-Rex, enfin voilà, toutes les habituelles chroniques que certains de nos auditeurs ont hâte d'entendre, et il y aura de quoi faire au cours de cette émission, donc puisqu'on abordera notamment les linemen offensifs, mais les linemen offensifs intérieurs qui sont les meilleurs gardes et centres de cette classe, comme souvent, donc c'est réparti en 3 différentes catégories, donc les têtes d'affiche dans un premier temps, les principaux outsiders, les joueurs à surveiller, on dira, en embuscade, et puis les autres joueurs qui sont à peu près situés aux alentours des deuxième et troisième tours. Pour en parler au cours de cette émission, Niti Niasimong est toujours en ma compagnie. Salut Niti.
Salut Greg, bonjour à tous.
Alors, on va essayer de garder la ligne aujourd'hui pour parler notamment de ces gardes et de ces centres, puisqu'on avait parlé il n'y a pas si longtemps que ça des safety très polyvalents. On va encore avoir affaire à beaucoup de linemen assez polyvalents. Et on va peut-être rentrer dans le vif du sujet au cours de cette émission. Alors déjà, ma première question, très importante, est-ce que tu es plus intrigué par cette classe de gardes ou de centres de prime abord ?
Plus par le poste de centre.
C'est vrai qu'il y a...
Ça va t'étonner, mais plus par le poste de centre.
Tout à fait. Non, mais ça ne m'étonne pas tant que ça. Il y a des choses, en tout cas. Voilà, on va le voir notamment dans le troisième chapeau. Il y a quelques profils à surveiller. Et peut-être des joueurs qu'on visualise peut-être pas tout de suite en tant que centre et qui pourraient se faire une place sur cette position à l'avenir. On y reviendra très, très prochainement. En attendant, on va commencer par le premier chapeau avec notamment 2 joueurs très établis. Le premier que je vais te laisser nous présenter, puisque c'est celui qui revient dans la majeure partie des mocks, on va dire en première position, c'est le garde de Florida, anciennement de Louisiana, Osiris Torrance.
Tu l'as dit, anciennement de Louisiana Lafayette, pour être précis. Louisiana Lafayette est une université dans la conférence Sun Belt, hein, donc c'est une conférence, pour ceux qui ne le savent pas, dans le Group of Five, voilà, je vais y arriver. Et donc, il a été transféré à Florida, puisqu'il a suivi son coach Billy Napier, pour aller dans, pour moi, ce que je considère comme la plus prestigieuse, la SEC, donc la SEC. Voilà, donc à Florida. Alors à Florida, il a joué tous les matchs titulaires, donc dès la semaine 1 en 2022. C'est un joueur qui, déjà, on va dire en dimension physique, est un monstre. Voilà, c'est un monstre. Il est massif, et en plus d'être massif, il est aussi très puissant. Il utilise très bien sa puissance, notamment pour tout ce qui est bloqué, notamment pour le jeu de course. Mais par contre, ça peut être paradoxal parce que sur le jeu de course, il est peut-être très bon. Mais alors pour bouger, être assigné à un défenseur pour pouvoir le plaquer, là, c'est peut-être un peu plus compliqué. Donc la mobilité latérale est à travailler. Mais sur la protection de passe, pour le faire en français, pour Anthony Richardson, son quarterback, il s'est amélioré. Il a été très, très bon sur ce domaine-là. Il a, comme tu l'as dit dans l'introduction, des mains violentes, Voilà, ils distribuent ce qu'on appelle des pancakes, voilà. Et effectivement, c'est vraiment sur le jeu de course où il va contribuer au début de sa carrière, carrière NFL, je parle, sur la protection de passe, encore à travailler, notamment sur le niveau de ses blocs, sur la technique aussi, au niveau des mains. Mais ça reste un joueur, voilà, déjà physiquement, il est assez exceptionnel. Et en termes d'agressivité, en termes de puissance, il dégage une telle envergure que un defensive tackle, voire un edge, va se faire stopper, on va dire, et mis par terre par ce garde.
Alors, j'ai pas grand-chose de plus à dire concernant Cyrus Torrence. J'aurais même tendance à dire que oui, en effet, il y en a beaucoup qui mettent en avant des points faibles. Hein, tu les as cités. Hein, globalement, c'est ce qui peut revenir. À mon sens, c'est plus perfectible que vraiment des données qui sont entre guillemets avec des grosses guillemets rédhibitoires. C'est-à-dire que vraiment, oui. Il est peut-être pas très constant partout. Après, s'il était constant partout, il serait top 5 de la draft, hein, sur la position. Ce serait Quentin Nelson, en l'occurrence.
Exactement, ouais.
Mais voilà, c'est un autre phénomène physique. C'est un joueur qui a encore plus de gabarit, je trouve, et que Nelson, en l'occurrence. Et pour le gabarit qui est le sien, ce qu'il arrive à faire et sa manière d'être extrêmement complet est quand même assez bluffante. Tu l'as très bien dit, c'est un joueur qui est aussi intéressant sur le jeu au sol que sur le jeu à la passe. Ce qui n'est pas évident parce qu'il a quasiment uniquement joué avec des quarterbacks mobiles durant sa carrière en universitaire. Et dans la mouvance actuelle NFL, avoir un garde de cette dimension aussi complet et capable en effet de pouvoir s'adapter quand son quarterback est susceptible de scrambler et de sortir de la poche, c'est clairement pas négligeable. Donc toutes ces données-là font que, à mon sens, oui, c'est un premier tour indéniable. Alors après, il y en a certains qui vont dire. Oui, il a joué que dans le système d'un seul coach, puisqu'en l'occurrence, tu l'as dit, il a suivi son head coach de Louisiana du côté de Florida, Billy Napier. Oui, ok, il n'a pas vu mille choses autres que du bloc en zone majoritairement. Mais en tout cas, voilà, concrètement, en plus, voilà, les équipes qui jouent en bloc de zone dans la NFL, il y en a de plus en plus. Je crois qu'aujourd'hui, c'est une majorité. Hein. Je vais pas me tromper, parce que. Mais globalement, ça, c'est la fameuse Copycat League, l'effet Shanahan, slash McVay, etc., etc. Donc, très concrètement, voilà, je pense que Osiris Torrance sera un joueur très, très courtisé. Et un petit peu comme on avait dit avec Brian Branch il y a quelques jours du côté d'Alabama, voilà, ça me paraît quand même un no-brainer, comme on dit dans la langue de Shakespeare, pour qu'il sorte éventuellement au premier tour, s'il n'y a pas d'histoire médicale, bien entendu. Je suis pas sûr que tu l'aies dit, mais juste de complète également, ce qui est encore plus bluffant en l'occurrence. Alors, il a changé de conférence, en effet, dans une conférence beaucoup plus relevée, ça tu l'avais dit. Il a concédé, on va dire, un peu plus de pression, 8 au total sur la saison, mais 0-8 et 0 sac. Dans
Ouais,
une
je l'ai
défense,
pas dit, non.
dans une conférence beaucoup plus redoutable défensivement. Donc voilà, il y a cette progression-là. Et cette fameuse transition, ce fameux palier supplémentaire dont on attendait qu'il arrive à le franchir, système favorable ou pas système favorable, il l'a franchi voilà, avec assurance. Donc voilà, il a rassuré en plus au Senior Bowl. Après, franchement, voilà, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire. On peut enchaîner sur le deuxième, je pense, parce qu'on sera globalement d'accord. Mais ce sera vraiment un profil très intéressant et un garde, hein, très clairement. Voilà.
Un garde 100%, ce ne sera
Voilà.
jamais ni un
Vu la
tackle ni
taille et
un
le
centre. Ouais.
gabarit, voilà, je pense qu'on parle d'un joueur qui sera très très efficace sur la position de garde. On passe au deuxième joueur du coup, et on va prendre la direction de Minnesota pour parler de John Michael Smith, pardon, JMS. Hein, voilà. Il y avait OCT tout à l'heure, maintenant il y a JMS. Voilà, va falloir s'y faire. Alors on est dans la plus pure tradition du lineman offensif de Minnesota. C'est-à-dire que John Michael Schmidt, c'est vraiment un profil extrêmement dissuasif, non seulement sur le bloc au sol, hein, parce qu'il faut le savoir, Minnesota, ça joue dans la Big Ten, où ça joue majoritairement à la course. Et en l'occurrence, voilà, ça a ouvert beaucoup, beaucoup de boulevards du côté de John Michael Schmitz. Sa différence, peut-être, c'est aussi son athlétisme, un peu, ses qualités athlétiques. Pardon, c'est vrai que l'athlétisme, c'est un peu un barbarisme en termes de langage. Mais c'est vrai qu'il est beaucoup plus à l'aise que d'autres notamment sur le Pass Pro. Il a beaucoup plus étonné, il a été beaucoup sollicité dans ce domaine-là à l'occasion du Senior Bowl. Et on a vu globalement qu'il était capable de faire l'affaire. Et c'est là aussi on peut se poser la question. Principalement, c'est un centre. Alors, il est un peu plus petit que d'autres profils. Donc, c'est vrai que dès qu'on a tendance à faire un peu moins, alors c'est, j'ai la conversion dans ma tête. Dès qu'on fait un peu moins de 6-5, on est
Ouais,
plutôt.
là, il est à 1,93 m, là, effectivement. Ouais,
Voilà.
1,93 m, ouais.
Ça reste quand même assez grand, mais c'est vrai que voilà, faut, dès qu'on culmine pas un bon 94-95, on commence à dire et on est un peu petit pour
Bah,
jouer garde tackle.
tu as Tyler Linderbaum qui faisait peut-être la même taille. J'ai un doute, là. Mais je pense que
Je
oui.
pense aussi, voilà. Mais
Ouais.
du coup, voilà. Donc il est pressenti pour jouer centre, mais de par ce qu'il a démontré, en effet, de par sa capacité, notamment de par son étonnante mobilité, notamment pour assurer la protection de passe, ça peut être potentiellement un garde en devenir en fonction des nécessités des postes, hein. Ça peut être un London Dickerson, par exemple, que beaucoup voyaient en centre il y a quelques années parce qu'il faisait très très bien le boulot du côté d'Alabama, mais dont on a vu qu'il était parfaitement capable de s'excentrer un petit peu plus et d'être un garde titulaire aujourd'hui en NFL du côté des Eagles. Donc voilà, j'ai pas parlé des mains violentes hein, parce que bon ça va de soi. Hein. Je pense que voilà. Autant Osiris Torrance c'était un spécialiste des pancakes. Je pense que Joe Michael Schmitz, pour reprendre l'expression d'une connaissance à moi, c'est fricassé de phalange. Hein, ça dit plutôt
Ouais.
là. Donc voilà. Mais c'est vrai qu'il est globalement complet. Voilà encore une fois, physiquement il y a rien à redire. C'est pas le profil le plus athlétique, mais voilà, je l'ai dit, il a quand même pas mal détonné à ce niveau-là, et techniquement, c'est assez propre. Donc voilà, il y a quand même peu de choses à critiquer, on va dire, dans son jeu. Voilà, tout n'est pas aussi impressionnant athlétiquement qu'Osiris Torrance, et c'est sans doute ce qui va le faire un petit peu chuter sur certains boards, mais aujourd'hui, c'est clairement, à mon sens, une fin de premier, début de deuxième tour. Je sais pas ce que tu en penses.
Bah, Jermichael Schmitz, si tu cherches un joueur pour la course, c'est ton centre idéal, hein. Il a contribué à la bonne saison de Mohamed Ibrahim que Victor et Kevin ont présenté lors des running backs. Il faut savoir qu'à Minnesota, ils ont quand même une bonne tradition chez les linemen. Alors, c'est Daniel Faalele, hein, qui a été drafté également de Minnesota, mais qui a joué tackle, mais qui peut jouer garde. Mais lui, clairement, il a joué. Je crois qu'il a joué uniquement centre, hein, dans ses années universitaires, à moins qu'il a fait peut-être un ou deux snaps en tant que garde. Mais effectivement, sur la technique de protection de passe, au Senior Bowl, on l'a vu, hein, il a quand même du potentiel. Alors oui, potentiel peut-être, mais ouais, c'est un joueur qui a 24 ans, il me semble, et il aura 25, je crois, lorsque la saison va débuter. Donc si une équipe qui joue le titre cherche un centre, c'est votre candidat idéal.
Voilà. Donc en plus, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais c'est vrai qu'en termes de décrochement, il est assez efficace aussi. Globalement, Minnesota, ça joue quand même, ça joue de la zone et du gap assez allègrement. Ça joue un petit peu plus de la zone, mais en tout cas, ça présente aussi le fait qu'il est assez versatile et qu'en fonction du système, on est susceptible de l'utiliser. C'est pas un joueur qui va découvrir, en l'occurrence, qui va pas avoir besoin d'adapter ses qualités au système. Globalement, il a déjà été sollicité dans ce registre-là. Donc voilà, c'est vraiment, j'exagère un peu, mais c'est un joueur clé en main qu'on va avoir avec John Michael
Ah,
Schmitz en
clairement.
fonction de ce qu'on a envie d'en faire, de la manière dont on a envie d'utiliser. Donc c'est ça qui va être assez intéressant à suivre dès son arrivée chez les pros. On passe au deuxième chapeau à présent et on va parler d'un profil assez atypique. Je crois qu'il était pour toi celui-là. Monsieur Cody Mauch
C'est ça, Cody
du North
Mauch.
Dakota State.
Voilà, issu de North Dakota State. Donc, Cody Mauch qui a surtout joué tackle l'année dernière, tackle gauche en plus, hein. Donc, c'est clairement un joueur qui, et même l'année dernière d'ailleurs, en 2020, il a joué tackle gauche, mais en NFL, il sera garde. C'est sûr et certain. Alors oui, il a peut-être ce potentiel pour devenir tackle en NFL, mais pour moi, il n'a pas vraiment l'envergure qu'il faut pour qu'il puisse jouer à ce poste-là, même la mobilité. Il faut savoir que Cody Mauch, à North Dakota State, il a beaucoup joué sur les jeux principalement au sol. Voilà, la mobilité latérale, c'est parfait. Les mouvements pour aller Dans le second rideau, c'est parfait aussi. Voilà. Et sur la passe, sur la protection de passe, il a concédé certes un sac, six pressions, mais ça reste très correct. En tout cas, dans cette partie-là. Voilà. Donc, c'est dans un jeu, comme tu l'as dit, en zone, on va dire, dans les jeux en zone. Là, sa mobilité va lui servir. Par contre, pour tout ce qui est voilà, envergure, protéger le quarterback sur les jeux en mode gap, ça risque d'être un petit peu compliqué pour lui. Mais c'est un joueur qui clairement est assez, comment dire, voilà, c'est assez bon sur la protection de passe, même si il y a eu quelques pénalités en tout cas surtout cette saison à North Dakota State. Mais si il travaille bien dans le process combine et s'il fait un bon camp d'entraînement, il sera titulaire dès la semaine 1 dans une équipe NFL.
Pour rappeler que c'est un profil très très intriguant, Cody Mauch, parce que il arrive en tant que tight end du côté de North Dakota State, hein, donc c'est vrai qu'il y a déjà, on va dire, il y a une mobilité en tout cas qui peut être assez intéressante, même si clairement c'est pas son point fort et c'est ce qui peut lui jouer des tours, tu le disais, pour éventuellement passer en tant que tackle. Alors ça peut peut-être être un swing, comme on dit, enfin un backup de temps en temps si vraiment on a besoin. Mais principalement, oui, il sera sans doute meilleur sur la position de garde pour les raisons notamment que tu as évoquées. Mais c'est vrai que voilà, faut pas aussi perdre de vue que il y a eu, on va dire, une grosse transformation. Hein, c'est beaucoup moqué, enfin moqué de manière très gentille par les médias américains. On voit vraiment la comparaison entre le joueur qu'il était quand il arrivait en tant que tight end du côté du bison. Et le profil qu'il a aujourd'hui, et le fait qu'il ait réussi à garder cette certaine mobilité malgré justement le fait d'avoir dû prendre beaucoup plus de coffres et beaucoup plus d'envergure pour évoluer sur la ligne offensive, c'est quand même annonciateur d'assez de bonnes choses. Et là encore, je sais que ça va rentrer dans ces fameuses catégories des joueurs de 24 ans que ni toi ni Victor n'aimaient.
C'est vrai que le potentiel il est peut-être pas présent parce que voilà c'est un joueur expérimenté
Mais ça a l'air d'être une éponge quand même.
mais oui c'est un très bon joueur hein. Il y a pas il y aura pas de souci il peut remplacer un joueur qui voilà dans une équipe NFL est un peu vieillissante. Effectivement il va manquer d'expérience puisque le niveau NFL est bien sûr incomparable par rapport au niveau NCAA. Et en plus, il joue même pas en FBS, il jouait en deuxième division universitaire puisqu'il jouait à North Dakota State. Mais c'est clairement un joueur qui va être très intriguant à suivre. Un joueur qui, en plus, dans les boards, est très coté, donc à surveiller.
Oui, Pierre, je ne veux pas dire de bêtises, mais c'est vrai qu'on vante souvent notamment les quarterbacks de North Dakota State. Les linemen, ça ne fait pas toujours la transition ces dernières années en NFL. Hein. J'ai souvenir d'un Dylan Raddons, par exemple, alors, qui joue hein, du côté de Tennessee, bien sûr, mais qui est pas non plus, enfin, qui n'était pas aussi à l'aise que ce qu'on pouvait comment dire, pressentir à sa sortie de college football. Donc voilà, c'est aussi des joueurs qui ont besoin de s'acclimater et c'est peut-être aussi, si on prend à chaque fois le comparatif avec le fait que c'est des joueurs qui viennent de deuxième division universitaire, c'est peut-être aussi principalement dans les tranchées que la transition doit se faire, encore plus avec ce type de profil-là, qui est un joueur qui a encore pas mal de choses à apprendre techniquement, enfin notamment. Mais voilà, on voit que c'est un joueur qui a un certain QI football, qui a une certaine réactivité assez intéressante, et c'est aussi ce qui peut lui permettre d'être assez polyvalent et très utile dès son arrivée chez les pros. On passe au deuxième joueur, en l'occurrence de ce deuxième chapeau. Il s'agit de Steve Avila, lineman offensif de TCU, finaliste avec les Horned Frogs, une des valeurs sûres offensives cette saison de la part au sein du programme de Texas Christian, joueur qui vraiment n'a cessé de monter en puissance et qui fait partie de ces joueurs. Alors, je parlais de John Michael Smith tout à l'heure. Ça peut également faire partie de ces joueurs dont on va se poser la question de savoir s'ils sont peut-être meilleurs en garde ou en centre à l'échelon supérieur. C'est un joueur qui a principalement évolué comme garde du côté de TCU, notamment la saison dernière, hein, en 2022, mais qui a déjà évolué en tant que centre en l'occurrence. Sa taille, là aussi, ça fait partie de ces joueurs qui sont à 6'4", donc on va dire un petit peu moins d'1 m 95. Donc en l'occurrence, voilà, sur la position de centre, c'est peut-être là où il rassurera peut-être un petit peu plus. Le fait qu'il ait été baladé un petit peu entre les deux positions, ça a tendance peut-être à le péjorer d'un point de vue réactivité, on dira, sur le snap. Voilà, on ne le sent pas forcément à l'aise toujours sur la position de garde, en tout cas pas forcément le plus réactif. C'est pas forcément le plus fin technicien, on va dire, de tous les joueurs dont on va parler, mais physiquement, c'est un des plus difficiles à bouger de ce plateau, et pourtant, on a déjà évoqué quelques beaux mammouths. Et athlétiquement, notamment avec le gabarit qui est le sien, c'est un joueur qui apporte une belle polyvalence, une capacité à être assez dangereux sur le pass pro, enfin, en tout cas, à être vraiment respecté sur le pass pro. Donc voilà, un profil extrêmement complet. Alors, je sais que ça avait fait couiner beaucoup de personnes quand je l'avais mis, notamment un petit peu à la surprise générale à la fin du premier tour. Je le répète, les linemen offensifs, c'est toujours une denrée relativement rassurante en fin de premier tour. Et c'est pour ça que j'avais tenté un petit peu le pari. On est d'accord qu'aujourd'hui, c'est plus un deuxième tour à mon sens, notamment Nitti, parce que, comme je le disais, il y a peut-être des interrogations sur peut-être le profil un petit peu idoine à identifier le concernant.
Voilà, c'est exactement ça, tu as quasiment tout dit. Moi, je serais peut-être un peu plus direct que toi. Je pense que son meilleur poste, c'est centre. Parce que garde en NFL, l'envergure qu'il a est un peu limitée, voilà, pour lui. Donc, je pense que centre, ce sera son poste en NFL, un peu à la manière, tu vois, d'un César Ruiz. Je sais pas si César Ruiz avait fait si c'est ça, voilà, il avait fait la transition, il a fait garde en université et
Tout à
ensuite
fait.
il est passé centre au Saints de la Nouvelle-Orléans. Effectivement, comme tu l'as dit, un peu de mal sur la réactivité, notamment dès le snap et lorsque le défenseur arrive sur lui. Mais comme tu l'as dit, c'est un joueur qui va être très difficile à bouger vu son poids également, très massif. Par contre, il est peut-être massif, il a peut-être une puissance naturelle, mais justement, c'est peut-être aussi c'est ce qui va lui desservir. C'est vu qu'il est trop assez puissant et trop massif, c'est qu'après la mobilité va, bah ça va pas être, ça c'est pas trop ça, et donc il peut commettre des pénalités. Et on l'a vu notamment parfois contre Michigan, on l'a vu aussi contre en saison régulière. Pas vraiment en finale hein, contre Georgia, mais ça va être un joueur. Qui, s'il progresse bien, assez solide en NFL.
Très clairement. À surveiller ce cas, Steve Avila. On termine avec le dernier joueur du deuxième chapeau, Andrew Voorhis, garde de USC. Alors, on n'est pas forcément dans l'hyper glamour d'un point de vue athlétique, mais on a un joueur assez établi, Nitti, sur cette
Ah bah là,
position.
on a un joueur expérimenté, quasiment 6 ans en NCAA, toujours dans la même université, hein, USC. Il a progressé hein, au fil des saisons. Il a joué plus de snaps pour devenir un vrai titulaire lors des 2 dernières saisons. USC hein, en attaque, c'était pas trop ça, on va dire. Mais Andrew Voorhis a été l'un des joueurs les plus solides, en tout cas de la rotation, jusqu'à cette année où vraiment cette année il y avait des playmakers, il y avait notamment Jordan Addison, Caleb Williams. Enfin bref, Andrew Voorhis a joué plutôt garde gauche. Voilà, surtout cette saison en 2022. Il a joué tackle en 2021, donc ça peut être aussi un poste à considérer en NFL puisque il est assez grand, il a une bonne envergure, il est très 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 important sur le jeu de course. En tout cas, c'est sa spécialité. Par contre, sur la protection de passe, la mobilité latérale, c'est pas trop ça. Le footwork, enfin le On va dire le travail de pied est encore à travailler, même si c'est un bon athlète quand on le voit jouer. Et puis clairement, quand on va lui dire de protéger le quarterback, quand on va lui dire de travailler le bloc, même s'il est expérimenté, c'est pas encore parfait. Et voilà, il manque encore un peu de constance. C'est pas vraiment son point fort, effectivement, tout ce qui est protection de la technique de main. Mais c'est à travailler. Il a encore un potentiel, je trouve, malgré son âge avancé. Mais par contre, il est expérimenté. Il peut être un vrai point d'ancrage pour l'attaque une attaque NFL. Mais il a le prototype parfait pour jouer garde en NFL. Tackle peut-être pas, mais garde, oui.
Ouais, c'est C'est peut-être un profil qui athlétiquement, ah, peut-être, athlétiquement, il y a peut-être des portes qui peuvent se fermer le concernant et peut-être l'emmener plus vers un troisième que vers un deuxième tour en l'occurrence, par rapport à d'autres en l'occurrence. Maintenant, très franchement, enfin, on bloque de différentes manières aujourd'hui en NFL. Hein. On fait pas que bloquer en zone ou sur du gap où on joue un peu plus physiquement, mais je pense que c'est vraiment un joueur taillé pour faire du gap bloc parce que vraiment il y a une capacité, tu le disais, à être hyper agressif, à être hyper enfin avoir des appuis malgré tout assez solides. Alors en effet, voilà son bas du corps, on va dire, est perfectible, mais voilà, il arrive quand même assez souvent à prendre le dessus physiquement, donc c'est vraiment un joueur qui va être intéressant à suivre là aussi dans cette classe de la main offensive assez fournie. On termine avec le troisième chapeau et du coup, je vais commencer à parler du centre d'Ohio State. On va rester dans la Big Ten. On était sur quel joueur déjà?
USC, Big 12.
USC,
donc
absolument pas. Qu'est-ce qu'il dit? Oui, je me suis embrouillé parce qu'on va parler de Michigan juste après. Je pense à...
Ouais, c'est ça. Ouais.
Donc voilà, on restera sur la Big Ten, mais tout à l'heure. Là, on commence, on revient en tout cas sur la Big Ten.
Exactement.
Pour parler de Luke Whippler. Centre d'Ohio State, hein, ça fait partie de ces innombrables centres que les Buckeyes fournissent aux professionnels. Luke Whippler, qui est devenu titulaire, il me semble, en 2021, en tout cas sur les dernières années, notamment du côté de Columbus. Et c'est un profil assez particulier. Là encore, c'est un joueur qui devrait atterrir aux alentours du troisième tour parce que globalement, c'est quand même un joueur qui a déjà pas mal d'acquis à sa disposition, qui a un gabarit, on va dire, un peu, j'allais dire bâtard, mais c'est vrai que malheureusement, ce n'est pas le profil, on va dire, il n'a peut-être pas cette fameuse amplitude qui plaît à énormément de joueurs. Très clairement, ce n'est pas son coéquipier d'Awan Jones, par exemple, si on compare les deux. Hein. On sait
ah
que,
non, pas du tout.
Voilà.
C'est sûr.
Voilà. Il est très tassé, entre guillemets. Après ça a fermé des portes à Creed Humphrey. On a vu comment ça s'est passé par la suite. Mais voilà, sans forcément comparer les deux hommes. Mais c'est vrai que Luke Whippler, ce qui est très intriguant quand on regarde notamment les tapes, c'est de se rendre compte que, j'aime bien utiliser cette comparaison, il est extrêmement précieux en phase active. Je trouve qu'en termes de décrochement, c'est un joueur qui est très, alors pas sous-estimé, parce qu'encore une fois, chacun va avoir son point de vue sur le profil, mais je trouve que c'est un joueur qui est vraiment capable de faire du grabuge, et il l'a montré surtout dans cette attaque d'Ohio State. Par contre, en phase passive sur du pass pro, il y a encore du boulot, et il peut être assez facilement encore mis sur les fesses, et c'est peut-être là-dessus, encore une fois, cette petite différence entre la prise d'initiative et le fait de subir, on dira, le duel, qui peut être très polarisant là de nouveau et qui peut peut-être clairement emmener ce joueur-là sur un troisième tour exclusif parce qu'on voit que les qualités athlétiques sont indéniables, mais avec des mensurations et des points faibles aussi négligeables sur du pass pro, ça peut être rédhibitoire le concernant.
Surtout qu'en plus, la NFL est une ligue maintenant qui tend un peu vers la passe, donc effectivement, dans ce domaine-là, il va avoir peut-être un petit problème. Il est peut-être puissant, mais effectivement, il faut qu'il améliore encore sa puissance. Il est jeune hein, après, hein, il a 21 ans. Mais pour te dire la vérité, Greg, ce profil-là, c'est un profil qui m'intrigue parce que bon, certes, il est juste centre, mais c'est un centre très performant hein, à Ohio State. Notamment, il a affronté des défenses qui sont quand même pas. J'allais dire pour être un peu familier, pas dégueu hein, Michigan notamment, il y a aussi Iowa, enfin bref, c'est des défenses plutôt très qui blitzent beaucoup et il a une certaine intelligence de jeu qui est déjà là, qui est déjà présente. T'as aussi une technique qui est plutôt pas trop mal. Donc, en termes de protection de passe, tu disais effectivement qu'il a beaucoup de travail, mais je pense qu'il a déjà les bases. Il faut peut-être encore travailler effectivement ces lacunes, notamment en termes de réactivité. Mais c'est vrai que, par exemple, face à des linemen défensifs qui sont très très costauds, là effectivement, comme tu as dit, il peut être mis sur les fesses et ça peut être très très rédhibitoire lors de la draft.
Voilà. En tout cas. Pour de la zone, c'est votre homme. Moi, je vous le dis.
Non.
Voilà, il va faire bouger deux, trois mecs. Hein. Lancer, cet homme est un rhinocéros.
Exactement. Ouais. Non, mais c'est un très bon joueur. Je pense que ça va être un très bon joueur en NFL, en plus du potentiel qu'il dégage. Donc, non, là, moi, je suis assez hypé par ce joueur.
Très bien, ravi de partager cet enthousiasme en ta compagnie. On va donc rester, je le disais tout à l'heure, dans la Big Ten. Voilà, j'anticipe à quelques secondes, hein, puisqu'on va parler de Michigan, justement, et on va parler d'Olusegun Oluwatimi, ancien lineman offensif de Virginia, qui a donc transféré la saison dernière du côté de Michigan pour franchir ce fameux palier supplémentaire, avec succès, en l'occurrence, que Michigan est resté une des lignes offensives les plus respectées, on dira, de première division universitaire, en tout cas jusqu'à la demi-finale face à TCU, où ils se sont fait un petit peu bouger malgré tout. Mais Oluwatimi, alors, on parlait tout à l'heure de Cyrus Torrance, je suis curieux d'avoir ton point de vue là-dessus, parce que on a affaire, là encore, à un spécimen physique hors norme. Ce qui lui manque peut-être un petit peu plus, c'est justement cette coordination, on va dire, cette coordination peut-être athlétique au corps absolument monstrueux qu'il a à sa disposition.
Ça qui est dommage, c'est que il a
Et
un
t'es à ça
physique,
quand même.
ouais, c'est ça, il a un physique hors norme, et on a l'impression qu'il s'en sert pas. C'est dommage, hein, parce que il est assez intelligent, hein, c'est un mec qui peut être puissant, mais non, dans les jeux de course de Michigan, à chaque fois le running back contourné par le tackle parce qu'il était meilleur, et quand il passait par le centre, bah il avançait pas. Et nous, en fait, en regardant les matchs de Michigan, on se dit, mais pourquoi? En fait, il est stoppé alors que la ligne offensive de Michigan a l'air puissante, au centre. Voilà, c'est dommage. De ce point de vue-là, c'est dommage.
Je pense que c'est un joueur qui peut beaucoup, beaucoup frustrer, tu le disais tout à l'heure pour d'autres, mais pour le côté constance. C'est-à-dire qu'il y a des actions, il va faire vraiment des coups d'éclat, et on va se dire, même sur des double teams, on va se dire, mais c'est un joueur qui est capable de déplacer n'importe qui. Et sur tout le reste du match, il va devenir complètement transparent. C'est un des joueurs dont on parle aujourd'hui qui a concédé le plus de flags, il me semble, que ce soit du côté des Cavaliers ou des Wolverines. Alors que pour le coup, du côté de Michigan, je disais, la O-line n'était pas forcément toujours débordée. Donc ça aussi, c'est vrai que voilà, c'est un joueur qui peut avoir cette tendance, peut-être pas à paniquer, mais en tout cas à perdre un petit peu plus le fil en fonction des situations et sans doute en fonction des adversaires qu'il va avoir à sa disposition, notamment des defensive tackles ou des nose tackles modernes qui sont amenés quand même à être un peu plus athlétiques et à peut-être avoir un peu plus de réactivité face à des spécimens comme ça. Donc voilà, sans le réduire dans la case, on va dire, plot. Joueur un peu surhumain qui a pas de plan B. C'est vrai qu'Oluwatimi, je pense qu'il y a une progression malgré tout qui va être. Enfin, c'est un joueur qui va être malgré tout à développer. J'ai pas son âge sous le coude, hein, mais
Non, il est déjà assez expérimenté, il a 23 ans déjà, hein, il me semble, et il aura
après c'est vrai
24
qu'on
à la
voilà,
fin de la...
on va sortir cet exemple pour beaucoup de joueurs, mais les années supplémentaires universitaires liées notamment à la période Covid fait qu'il y a énormément de profils de 23 à 24 ans. Donc c'est vrai que voilà, il y a des marges de progression pour les uns et les autres, mais forcément, c'est moins pris en compte, on dira, que les précédentes années quand les joueurs sortaient à 21 et 22 ans, c'est sûr. Mais voilà, je ne sais pas ce que tu en penses sur Oluwatimi globalement. Enfin, voilà, on ne va pas faire 2 heures dessus, mais je pense qu'on est assez d'accord par rapport à ça.
Non, je pense qu'on est d'accord sur quasiment tout, hein, mais ce que je peux rajouter, c'est il a de l'expérience, hein, donc il sera un titulaire peut-être dès la semaine 1, hein, mais effectivement, comme tu l'as dit, on a peur qu'il se fasse passer pour un plot.
Ouais,
C'est un peu
ça a
ça.
été, tu le disais, ouais. Alors, capitaine offensif, c'est sûr à Virginia. À Michigan, j'ai un doute, mais ça ne m'étonnerait pas. Et
Non, je...
je trouve que ce qui est intéressant, c'est qu'à Virginia, en l'occurrence, il a beaucoup été utilisé sur de la protection de passe, justement, notamment les dernières années avec Brennan Armstrong du côté des Cavs. Et du côté de Michigan, on était beaucoup plus sur une identité et sur du jeu au sol. Là, pour le coup, on sera plus sur du bloc en gap, je pense, en majeure partie. En tout cas, c'est plus ce qu'il mettra en évidence. Mais voilà, très franchement, c'est pic compensatoire, comme pour Brandon Joseph, il n'y a pas longtemps.
Bon, après, je sais pas pour le pic compensatoire, mais bon, c'est vrai que s'il y a bien un lineman offensif sur lequel il y a un boom or bust qui peut être qui peut caractériser, c'est bien cet
Sur lui.
homme-là, parce que quand on va le voir, enfin quand les gens vont le voir sur Internet ou sur les vidéos, c'est vrai que tu te dis, mais non, c'est le meilleur centre de la draft, mais
Mais après, il faut produire.
il faut produire, voilà. Exactement.
On termine avec un dernier joueur. Alors là, c'est un peu plus polarisant. Alors, je crois que c'est un de tes coups de cœur personnels.
Voilà.
Donc voilà, je vais te laisser nous en parler un petit peu. On l'a vu notamment à l'occasion du Senior Bowl. Et on va de nouveau parler d'un joueur de deuxième division universitaire, puisqu'il s'agit de McClendon Curtis de l'université de Chattanooga.
L'université de Chattanooga, je ne sais pas si ça parle pour tout le monde, cette université, mais il n'y a pas si longtemps, c'est-à-dire l'année dernière, ils ont eu un joueur drafté au premier tour, cette université, avec Cole Strange, qui est allé du côté des New England Patriots. Pourquoi ce joueur-là me plaît? Parce que déjà, j'aime bien sa détermination. Il est très compétitif, et on l'a vu au Senior Bowl. Après, voilà, McClendon Curtis, c'est un joueur qui a beaucoup joué tackle. C'est l'année dernière également, left tackle, comme un peu comme un certain Cody Mauch qu'on a évoqué il y a quelques minutes. Mais en NFL, et ça c'est quasi sûr, il joue à garde. Il joue à garde parce que l'envergure, même s'il est grand, l'envergure, c'est pas trop ça, on va dire. Même en NFL Combine, je pense qu'ils vont s'en rendre compte. Je pense qu'il est invité. Hein. Moi que je me trompe,
Moi, il était dans la liste, hein,
ok, d'accord. Je sais pas tout regarder, mais
Au pire, on passera pour des jambons, hein, vu que ça passe après le
voilà,
combat.
c'est ça exactement. C'est ça, c'est vrai.
Il me semble l'avoir vu dans la liste.
Et donc effectivement sur le jeu de course, vu que Chacha le gars utilise beaucoup les jeux de course, pas de problème là-dessus. C'est un joueur qui fera le travail, capable d'aller dans le second rideau. Ça, il n'y a pas de souci. Il est assez rapide sur ce point de vue-là. Sur la protection de passe, effectivement, là, comme un peu tout le monde est dans cette QV, j'ai l'impression que la technique, en tout cas, notamment sur les mains, est encore à travailler. Sur la mobilité latérale, on va dire, ça va à peu près. Il y a du potentiel là-dessus. Mais vu qu'il est assez massif, il peut se servir de sa puissance, en tout cas, pour éteindre le pass rusher ou le defensive tackle. Voilà, c'est vraiment un joueur aussi qui est versatile, hein, vu qu'il peut jouer tackle également. Mais en NFL, voilà, il faut vraiment le qualifier en tant que garde parce que même si il est puissant, même si il est capable de monter au second rideau, c'est un joueur qui va clairement avoir du travail sur la puissance, pas sur l'envergure, mais en tout cas sur le travail de bloc. Et il sera un joueur solide en NFL, ça c'est sûr.
Oui, voilà, c'est sûr que tout n'est pas très très rassurant. Et ça s'est vu à l'occasion lors du Senior Bowl. Hein. Je pense que ça a assez bien résumé ce qu'on pourra pardon, éventuellement voir de McClendon Curtis au niveau supérieur. C'est-à-dire qu'en effet, il a principalement été utilisé en tant que garde. Et sur les quelques apparitions qu'on l'a vu faire en tant que tackle, alors après, c'est sûr que voilà, c'est être balancé d'un poste à un autre face à des adversaires d'un calibre un peu supérieur quand même à ceux de deuxième division universitaire, hein, parce qu'en l'occurrence, Cody Mauch, il était dans une grosse division, une grosse conférence, pardon, de deuxième division universitaire, sauf erreur de ma part, c'est pas tout à fait le cas de Chattanooga. Donc en tout cas, c'est un peu moins clinquant. Donc voilà, là on a clairement vu la différence quand il a été utilisé notamment en tant que tackle droit. Voilà, les limites athlétiques font que ça peut malgré tout être un gros gros problème au moment de protéger la poche. Et il n'y a pas cette mobilité latérale qui peut être extrêmement intéressante, enfin qui peut être préjudiciable, même si en effet on voit que physiquement il y a des acquis et que en effet il y a peut-être une explosivité qui sera intéressante à exploiter sur du bloc en zone notamment et sur du jeu au sol.
Ce qui est sûr, c'est qu'il a les fondamentaux, clairement, du poste de garde. Mais voilà, à travailler après, un peu comme tous les linemen qu'on a évoqués, il est expérimenté. Donc son plafond, il est pas, voilà, il est pas très élevé. Donc voilà.
Tu le mettrais aux alentours de quel tour? Parce que moi, je t'avoue que j'avais un bon cinquième tour sur lui.
Ah non, là, peut-être fin de troisième, voire début de quatrième.
Oh,
Oui,
d'accord.
oui.
Moi, je ne demande qu'à te croire. Moi,
Ah
je.
bah,
De
j'ai
toute
déjà
façon,
fait.
ça fait partie de ces joueurs dont le combat il va être important. On le dit pour beaucoup de joueurs, mais là, en l'occurrence, pour McClendon Curtis, avec la copie qu'on a vue au Senior Bowl, c'est avec les points forts et les points faibles, ça va être intéressant à suivre. Mais d'accord. Tu es bien hypé par ce joueur, donc.
Ah oui, non, mais si je le mentionne, c'est vraiment au moins quatrième tour, troisième, allez, on va dire que je m'enflamme peut-être un peu, mais quatrième tour, je dirais pas non.
Fait. Après, tu l'as dit tout à l'heure, personne ne voyait Echo Strange au premier. Hein, donc,
Exactement, voilà.
Ça peut être une surprise. Chattanooga, université de surprise. On se rappellera que Chattanooga, c'est principalement l'université de Terrell Owens, hein, pour ceux qui l'auraient oublié. Ouais. Drafté au troisième tour, notamment en 1996. Voilà en tout cas ce qu'on pouvait dire sur cette classe de lineman offensif intérieur. Vous retrouvez un nouveau podcast audio dans quelques jours qui sera notamment consacré au débrief du Combine. A priori, j'y serai avec M. Victor Roulier, hein, donc je pense qu'il y aura deux, trois petites choses à dire. Ça va arriver encore parce qu'il y aura Victor au micro. Je taquine, bien entendu. Mais voilà, merci encore en tout cas, Nitinia, d'avoir été en compagnie. Un vrai plaisir. Et puis, hâte de se retrouver également pour des futures échéances. C'est possible qu'on refasse encore des podcasts de position, tous les deux, il me semble, dans quelques jours. À voir. Restez connectés, en tout cas.
Voilà, restez connectés. Et puis, passez une bonne journée.
Tout à fait. Merci à tous. Et à très vite sur les antennes de Touchdown Actu. Salut à tous.
Salut
à tous.
Salut.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president. You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
it. Coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.